Place Info.
Bonsoir et bienvenue municipal deuxième tour et dissidence neuvième groupe à la une des informés quand la politique se rappelle au bon souvenir d'Emmanuel Macron en pleine épidémie de Covid-19. Nous en débattons dans les informés avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de la ruche média.com, et avec Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique française, enseignant à Sciences Po. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio. Iriez-vous voter en juin? Avis très partagé dans les rues de Marseille, des propos recueillis par Philippe Bocara.
Il faut les faire. Bon, le premier tour, moi-même, je ne suis pas allée voter parce que je trouvais qu'il y avait trop de risques. Là, bon, c'est un peu moins, disons, mais avec beaucoup de précautions, ce serait peut-être faisable. Celui-là, de tour, j'irai voter.
On a l'impression que leur priorité, ce n'est pas les nôtres. Faire un rassemblement d'une telle ampleur, bon, voilà.
On va dans les magasins, on autorise les enfants d'aller à l'école, donc en soi, ce n'est pas catastrophique, ça va dans le même sens.
Je pense qu'il valait mieux attendre. La campagne n'a pas pu se faire normalement.
Vous irez voter?
C'est pas sûr.
Déjà, le premier tour, il n'aurait pas dû avoir lieu, ou alors il aurait dû être annulé. Là, tout est faussé et nous, on pense que c'est pas bon.
Roselyne Fèvre, c'est une vraie question quand même. Est-ce qu'il y a un risque à aller voter au deuxième tour si d'aventure il se maintient au mois de juin? C'est l'option qui est discutée hein, lors de cette visioconférence que tient en ce moment même Emmanuel Macron avec des maires et des représentants d'associations d'élus.
Oui, alors ce que j'ai compris, c'est que ça se fera en deux temps. Déjà, le conseil scientifique donc a donné son avis aujourd'hui. C'est un oui mais, donc un feu vert, mais un peu matiné de orange, c'est-à-dire que on pourra le faire si on est en capacité de mettre tous les gestes barrières et que tout ce qui est sanitaire et toutes les précautions sanitaires seront prises. Et puis il y aura une clause de revoyure. Voilà, et donc c'est il y a ces deux moments-là, le conseil scientifique qui reviendra pour donner son avis, et puis cette consultation des chefs de parti pour obtenir une sorte de consensus, puisque le premier tour a été extrêmement compliqué, un peu piégeux pour la majorité, et il ne veut pas que ça recommence, effectivement, avec un deuxième tour des municipales, complexe, qui sera critiqué. Donc tout le monde ouvre un peu le parapluie. Hein, on voit même Richard Ferrand qui, lui, n'est pas totalement... Il dit que c'est pas raisonnable de faire voter les gens alors que la campagne ne peut pas se dérouler. Donc on sent une réticence et pas vraiment de consensus. Pourtant, je pense qu'il faut aller vite parce que si on peut pas voter en juin pour le second tour, il faudra revoter pour le premier et le second.
On va développer ça tranquillement. Yasmina Jaffar, un petit côté trauma aussi. Hein, le scrutin du 15 mars laisse un souvenir amer.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se rappelle des batailles internes et des guerres intestines entre Monsieur Larcher et Monsieur Barouin qui n'avaient pas du tout envie qu'on annule en indiquant peut-être que Emmanuel Macron manipulerait du coup une élection. Et ensuite, de façon publique, il y a eu toute l'opposition qui a indiqué que cette élection n'aurait pas dû se tenir. C'est pour ça que je retiens aussi les termes d'Édouard Philippe qui a indiqué hier que cette fois-ci, l'opposition devra dire à haute voix, de façon publique, la position justement qu'elles ont sur ce prochain scrutin, pour ne pas jouer justement avec l'opinion publique. Il y a une responsabilité générale et il y a aussi là le conseil scientifique qui lui se dédouane et dit la première fois vous nous avez indiqué que c'était nous que vous écoutiez, le conseil scientifique, aujourd'hui nous vous disons que vraiment votre responsabilité elle sera la vôtre. Donc nous vous donnons des précisions mais nous ne sommes pas des politiques.
Oui, là-dessus, Sophie de Ravinel, vous avez la sensation que du côté de l'Élysée, il y a une petite envie quand même d'avancer, hein, de ne plus traîner sur cette question des municipales et de passer assez rapidement à autre chose, quitte à eh bien à prendre un petit risque, même s'il y aura effectivement ce qu'évoquait Roselyne Fèvre, hein, cette clause de revoyure 15 jours avant, même s'il y a un petit risque de deuxième vague, mais de peut-être de problèmes de contamination à la faveur du scrutin. On vous entend très mal. Je crois qu'il faut parler plus près de votre micro.
Oui, vous m'entendez mieux?
Un petit peu mieux, oui.
Petit peu mieux.
Voilà, ça y est. Voilà, c'est voilà, toujours la
c'est
difficulté.
C'est un petit peu mieux.
Ça
oui,
y est.
Bon, désolé.
Parfait.
Ça y est, je suis avec vous. La difficulté, elle est toujours c'est cet inconnu absolument de ce que sera le virus d'ici 15 jours, d'ici la fin juin. C'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai entendu Richard Ferrand ce matin sur France 2, comme beaucoup de Français, et à l'entendre, alors qu'il est quand même très proche du chef de l'État, et même s'il avait déjà prévenu qu'il aurait un avis négatif sur le fait de maintenir ces élections en juin, on sent quand même les réticences, parce qu'il y aura, effectivement, on a évoqué le vote, mais on ne parle pas de la campagne. Or, il n'y aura pas de campagne, il faut être
oui.
clair. Il y aura une campagne numérique, il y aura une campagne par des affichages, par des envois, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on peut décemment considérer que c'est une élection valable, valide, sans campagne? Je pense que l'Élysée est aussi prudent là-dessus. Et c'est ce qu'a voulu exprimer Richard Ferrand ce matin, même s'il n'est pas le porte-parole de l'Élysée.
Bruno Cotterêts, on va entendre dans un instant l'opinion de Martine Vassal, candidate LR à Marseille. Il n'y a pas eu de campagne, ou il n'y aura pas de campagne, nous dit à l'instant Sophie de Ravinel. Mais cette campagne, au fond, elle a déjà eu lieu, peut-être. Et après tout, il y a un épisode qui s'appelle l'épidémie de Covid-19. Donc peut-être la règle peut évoluer, non?
Oui, il faut pas oublier qu'une très grande majorité des communes françaises ont vu leur maire élu dès le premier tour. Au fond, on parle d'un deuxième tour pour principalement des communes de taille moyenne ou de grandes communes, mais une immense majorité des maires a été élue dès le premier tour. Donc la campagne, effectivement, de toute façon, a déjà eu lieu. Alors c'est vrai que les élections municipales, ce sont les élections de la campagne de proximité, les candidats vont aller à la rencontre des électeurs sur les marchés, dans les différents lieux sur lesquels se tient habituellement une campagne électorale. Alors c'est vrai que pour une élection de proximité, c'est particulièrement frustrant de ne pas avoir de campagne au sens fort du terme. Mais de toute façon, il n'y a pas de bonne solution pour ces élections municipales. Le fait que les deux tours soient distants dans le temps, même uniquement de 3 mois, ça montre bien qu'il y a déjà de toute façon des élections qui sont dans un cadre extrêmement inhabituel, et que le deuxième tour sera sans aucun doute un deuxième tour plutôt de confirmation. Hein. On avait vu le premier tour, les maires sortants qui avaient bénéficié d'une prime, et on voit pas très très bien aujourd'hui comment une campagne électorale sur des enjeux municipaux peut se remettre en place.
Allez, 20h10 sur France Info, c'est le Fil Info, Frédéric Bagnada.
La vice-présidente de l'Association des maires de France appelle à achever au plus vite le cycle électoral des municipales pour se consacrer à affronter le marasme économique, dit-elle. Le conseil scientifique n'est pas opposé à la tenue d'un second tour des municipales au mois de juin, à condition que la situation sanitaire soit évaluée 2 semaines avant la date. La République En Marche n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Pas un cataclysme, mais une épine pour la majorité avec le lancement d'un 9e groupe avec des ex-marcheurs dont Mathieu Orphelin et Cédric Villani. Tous les personnels soignants pourront bénéficier à compter de la semaine prochaine de tests sérologiques sur prescription médicale afin de savoir s'ils ont été ou non contaminés, annonce le ministre de la Santé Olivier Véran ce soir. La compagnie aérienne à bas coût britannique EasyJet cible d'une cyberattaque très sophistiquée. Les pirates ont eu accès aux adresses électroniques, aux détails des voyages d'environ 9 millions de clients, ainsi qu'aux données de cartes bancaires de plus de 2000 passagers. Ce piratage tombe particulièrement mal pour la compagnie, frappée elle aussi de plein fouet par l'arrêt des vols en raison de la pandémie. La quasi-totalité des plages corses vont rouvrir jeudi pour des bains de soleil ou des activités dynamiques, annonce le préfet de Corse Franck Robin. Mais on ne pourra pas tout faire et tout le temps. Pique-nique, barbecue et consommation d'alcool y seront interdits.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Frédéric Bagnada l'évoquait à l'instant, et oui, il y a en toile de fond cette reprise économique pour Martine Vassal. Il faut en finir donc au plus vite, impérativement, dit-elle, avoir des institutions stables, renouvelées. La candidate Les Républicains à Marseille, aujourd'hui sur France Info.
Si eh bien les conditions sanitaires le permettent et continuent en plus à s'améliorer régulièrement, ben j'encourage le gouvernement à adopter une position favorable pour que se tienne le deuxième tour. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il faut que les collectivités puissent agir pleinement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez avoir des maires qui ont été élus au premier tour, d'autres qui ne l'ont pas été, ce qui est tout à fait logique. Et puis après, vous avez des conseils de métropole, des intercommunalités qui ne vont pas pouvoir se réunir de manière correcte. Donc aujourd'hui, pour relancer l'économie, pour maintenir l'emploi, il faut impérativement pouvoir avoir des institutions qui soient stables, donc qui soient renouvelées, et c'est important de pouvoir voter. Alors, j'entendais sur votre antenne, vous disiez effectivement faire une campagne, mais je vous rappelle qu'entre un premier et un deuxième tour, il n'y a que 5 jours ouvrables. Donc, dans les 5 jours ouvrables, c'est un délai qui est extrêmement court pour faire une campagne, et c'est une campagne qu'il faut faire de manière numérique, bien entendu. Si vous allez dans les restaurants, ce que j'espère à partir du mois de juin, parce que c'est vraiment problématique, si vous allez faire vos courses, si vous allez à la plage, vous pouvez aussi aller voter et exercer votre droit démocratique. Parce que, je veux dire, voter c'est un droit, mais c'est aussi une chance de vivre en démocratie.
Alors première chose, Sophie de Ravinel, ce que dit cette candidate à Marseille, Martine Vassal pour Les Républicains, c'est qu'au fond, il y a une forme de déséquilibre aujourd'hui institutionnel, ce n'est pas rien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'intercommunalités, il y a des métropoles et il y a des maires d'un côté qui sont élus et pas d'autres. Et oui, au fond, il y a une espèce de croisement de deux élections municipales qui ne se rejoignent pas.
Oui, ce n'est pas rien, c'est une instabilité démocratique et c'est un danger du point de vue économique. Une instabilité démocratique parce qu'effectivement, il y a un peu comme une France à deux vitesses avec ces communes dans lesquelles le maire a été élu et les autres dans lesquelles ceux qui devaient partir continuent d'être là et mettent d'ailleurs, comme tout le monde en France, en difficulté leur situation, etc. Et ces équipes qui doivent investir, qui doivent lancer des histoires d'appels d'offres, des histoires de travaux... innombrables, il y a un vrai péril économique qui est, parmi tout le reste, toutes les autres difficultés, qui est réel. Et donc on comprend parfaitement, et Mme Vassal est assez convaincante dans son intervention, comme d'ailleurs tous ceux qui insistent, Anne Hidalgo le fait aussi très bien à Paris, même s'ils y ont intérêt à titre peut-être politique, oui. Mais on les comprend et ce déséquilibre risque d'être dangereux, dangereux du point de vue économique, mais encore une fois du point de vue démocratique aussi, avec de refaire les deux tours, de reporter d'un an, comme l'a suggéré encore une fois Richard Ferrand ce matin, alors qu'on ne sait absolument pas ce que sera la situation sanitaire à la rentrée.
Yasmina Jaffar, vous qui êtes à laruchemedia.com, est-ce qu'on peut faire une campagne numérique par Internet? C'est un peu abstrait quand même, non?
Oui, c'est abstrait parce que on découvre à la faveur de cette épidémie tout l'avantage et la révolution numérique. Mais quand on pense par exemple à l'élection américaine et à la façon dont Joe Biden fait sa campagne, alors bien évidemment il est très 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 loin, que ce soit en nombre de followers Twitter ou d'influence par rapport à Donald Trump. Mais Donald Trump aussi n'a pas une campagne évidente et il profite chaque soir du chiffre à donner à 20h ou 19h.
Vous voulez dire quoi, que Joe Biden fait sa campagne dans sa cave ou dans sa salle de bain, c'est ça?
Voilà, il fait ça, oui. Exactement. Joe Biden est dans sa cave, oui. Donc à chacun sa campagne. C'est une année particulière, c'est génération Covid, c'est une année Covid. Donc on va devoir faire avec, on n'a pas le choix, on ne peut pas rester dans le monde d'avant quand on vit quelque chose d'assez traumatisant et d'inédit. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de rassembler les gens à travers un propos, et le propos peut être tenu aujourd'hui à travers le numérique. On l'entend, le numérique, c'est un cinquième pouvoir, c'est le web, donc ça fait partie maintenant, peu importe les âges, du quotidien de chacun.
Roselyne Fèvre, on entendait ces personnes dans la rue à Marseille qui avaient des avis assez divergents. Philippe Bocara m'a d'ailleurs confirmé hors micro que au fond c'était vraiment très partagé dans la rue. Il y avait toutes sortes d'avis très opposés. Est-ce qu'il y a toujours cette crainte de rebond de l'épidémie? On ne sait pas trop si ce déconfinement se fait de manière, on va dire, très très sécure. Après tout, il y a toujours ces inquiétudes réelles et objectives des Français face à l'épidémie.
Oui, sauf que les Français sont parfois paradoxaux. Ils ont envie de déconfiner et on le voit bien d'ailleurs quand on sortait ce week-end, les gens n'avaient pas envie de rester confinés. Donc ils ont envie de reprendre leur vie. Et je me dis que si on rouvre dans quelques jours les cafés et les restaurants, en tout cas pour les zones vertes, pourquoi ne pas aller voter? Elle a raison, Martine Vassal, puisque c'était un de ses arguments. Pourquoi, dans le fond, rester comme l'oiseau sur la branche pour les maires dans une situation de blocage? Et puis, réellement, y a-t-il besoin de campagne? Comme elle le rappelait, il y avait 5 jours ouvrables de campagne électorale. Les maires, en quelque sorte, pendant le Covid, ont été présents, j'imagine, auprès de leurs administrés. Donc, ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont été présents. C'était une forme de campagne aussi d'être au plus près des gens de leur municipalité.
Bruno Cotterès, on le voit, hein, le bilan des victimes, eh bien, il se poursuit, il est égrené chaque jour, même s'il n'y a plus cette conférence de presse diffusée en direct du professeur Salomon chaque soir. Est-ce qu'il y a toujours, selon vous, dans l'opinion, Bruno Cotterès, cette espèce de croisement, ce sentiment mitigé entre l'envie, effectivement, de sortir, de renouer avec la vie et la crainte de l'épidémie?
Oui, toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'effectivement, la perception qu'ont les Français aujourd'hui, c'est que le déconfinement se passe plutôt bien. Il y avait beaucoup de craintes. Comment ça va se passer au travail? Comment ça va se passer dans les transports? Donc, de ce point de vue-là, l'évaluation est plutôt une évaluation encourageante. Mais effectivement, la crainte d'être contaminé, de contaminer ses proches, reste très importante. Et on a toujours, de manière extrêmement, extrêmement profonde et significative, une inquiétude et une crainte dans le domaine de l'emploi, dans le domaine économique. Tout le monde voit bien les annonces qui commencent à s'empiler maintenant d'enseignes commerciales françaises, oui, extrêmement connues des Français et qui sont en situation de dépôt de bilan ou pas loin d'être en dépôt de bilan. Donc tout le monde est en train de percevoir que peut-être son emploi va être menacé ou son activité économique va être menacée. Et il y a une très grande difficulté pour l'exécutif qui est d'arriver à réimpulser l'idée de repartir vers le travail, vers la dynamique positive, etc., sans prendre de risques sanitaires. On parlait des élections municipales, évidemment, si l'exécutif aujourd'hui disait c'est pas mûr, on peut pas retourner au bureau de vote avant l'automne, alors là, c'est un signal très négatif, effectivement, pour les acteurs économiques qui diraient si on peut pas organiser les élections municipales. Donc ça veut dire que l'exécutif craint, oui, sur le front sanitaire, et ça serait une nouvelle extrêmement qui prolongerait l'état d'un peu de point d'interrogation.
Alors justement, on va essayer de sonder un petit peu les intentions, hein, de l'exécutif alors que cette réunion, cette visioconférence se poursuit à l'Élysée. 20h20 sur France Info, Le Fil Info, Frédéric Bagnada.
Le nombre de cas graves de Covid-19 continue de baisser en France. Il y a ce soir 1894 malades du Covid en réanimation. C'est une centaine de moins qu'hier. Jérôme Salomon, directeur de la Santé, annonce également ce soir que 152 cas de la maladie de Kawasaki ont été comptabilisés en France depuis le 1er mars. Cette maladie infantile pourrait être liée au Covid-19. C'est un ni oui ni non. Le Conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du second tour des municipales le 28 juin, mais le Collège d'experts prévient qu'il faudra réduire les risques liés à la campagne électorale et réclame de tenir compte de la situation dans les 15 jours précédant le scrutin. Les voyageurs de retour de pays en dehors de l'Union européenne invités à se soumettre à une quatorzaine volontaire au domicile ou ailleurs, annonce le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur LCI. La mesure entrera en vigueur demain à l'intérieur de l'Union. Le Quai d'Orsay espère un assouplissement des restrictions aux frontières à partir du 15 juin. Les premières réponses aux vœux d'études supérieures disponibles ce soir sur la plateforme Parcoursup, une plateforme qui aura continué à fonctionner malgré la fermeture des établissements, et ce pour des élèves de terminale non seulement toujours privés de lycée, mais aussi d'aide à l'orientation.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et réunion qui s'est donc achevée à présent avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'exprime donc au sortir de cette visioconférence d'Emmanuel Macron avec des maires et des représentants d'élus ainsi que les ministres concernés et Jean Castex, hein, le monsieur déconfinement du gouvernement. Alors il y a eu ce débat qui se profile à l'Assemblée nationale. Le débat oui, mais le vote non. C'est ce qu'a fait comprendre et exprimer Gérard Larcher, qui ne veut pas de nouveaux votes autour des municipales. Il l'a dit, le président du Sénat, ce matin à Marc Fauvel et Renaud Dely sur France Info.
Si le conseil scientifique, si le comité scientifique considère que l'évolution de la crise sanitaire permet de tenir ces élections le 28 juin, par exemple, eh bien, il me semble important qu'elles puissent se tenir, bien sûr, en étant attentif à la prévention, aux gestes barrières, mais elle permet de doter notre pays de l'organisation territoriale dont elle a besoin pour la relance économique.
Vous ne souhaitez pas être consulté.
Mais nous avons déjà voté. Voilà pourquoi l'idée d'un deuxième vote me semblait pas une idée. C'est à l'exécutif de décider. Le débat, oui. Le vote, non, puisqu'il a déjà eu lieu.
Ah, c'est un sort de slogan, Sophie de Ravinel. On sent quand même qu'il y a la tentation de faire de la politique malgré tout et de ne pas signer un chèque en blanc à Emmanuel Macron.
Oui, mais ça c'est certain. Il n'y a aucune volonté de signer un chèque en blanc. En même temps, je trouve moi que Gérard Larcher, qui était assez en guerre sur cette crise, dans la mesure où il avait annoncé, lancé cette commission d'enquête parlementaire sur le Covid qui devait partir en juin, et finalement là, il a dit aussi ces derniers jours que au président de groupe que cette commission d'enquête allait prendre 6 mois de temps. Et que en plus certaines des auditions ne seraient pas publiques, ce qui n'est pas voilà. Et donc en même temps, il ménage aussi l'exécutif. Il n'a pas envie dans ce dossier-là de rentrer dans quelque chose de trop frontal. Et donc à la responsabilité des élections, il la laisse à l'exécutif, mais il n'a pas non plus envie d'entrer en guerre sur cette ouais. crise.
Roselyne Fèvre, ces commissions d'enquête hein, parlementaires, hein, des deux assemblées qui commencent à se mettre en place, c'est quoi? C'est cette petite musique de quelque chose de l'ordre des plaintes qui seront déposées par la suite contre les responsables politiques?
Je ne sais pas si derrière tout ça, il y a une volonté d'embêter la
une envie d'en découdre. Ouais.
Je ne sais pas. Je pense que regardez ce qui se passe à l'OMS, puisqu'il y a une enquête aussi qui va être faite. Je crois que c'est une question de démocratie. On est en démocratie. Il faut savoir tirer les leçons des faiblesses qui ont mis le gouvernement dans la capacité parfois de réagir. On a vu ça avec l'histoire des masques. Hein, et on n'a toujours quand même pas élucidé l'affaire, puisque Emmanuel Macron a quand même dit hier ou avant-hier qu'il n'y avait pas eu de pénurie de masques. Donc, en réalité, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, je pense que ces commissions d'enquête, elles sont intéressantes à partir du moment où on tire les leçons de moments qui sont un peu brumeux, on va dire, qu'on n'arrive pas à comprendre et faire le clair pour éviter peut-être la prochaine fois de tomber dans les mêmes écueils ou les mêmes errements. Je pense que c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a une volonté politique de mettre à mal le gouvernement et les ministres qui ont été en pointe sur le sujet? Je ne suis pas sûr.
Yasmina Jaffar, par-delà l'aspect sanitaire primordial hein, de cette crise, vous avez la sensation au fond que Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui lui-même est quand même candidat au Havre, faut-il le rappeler, et peut-être pas forcément en position facile, que l'exécutif veut tourner la page et avoir les mains libres pour tenter de faire repartir ce pays?
Oui, je crois qu'ils saisissent l'occasion pour tourner la page de cet épisode autour et des municipales et pour pouvoir avancer aussi. Et puis par rapport aux différentes commissions parlementaires, c'est vrai qu'il y a 63 ou un peu plus de plaintes contre les ministres et à savoir si elles sont des plaintes liées au pénal ou au Parlement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se rappelle des rapports très tendus qu'il y avait entre le Sénat et l'exécutif à l'époque de l'affaire Benalla et on a le sentiment là aussi que ça peut être aussi utilisé comme un outil de justice et de contrôle. Je suis d'accord avec ce que disait Roselyne Fèvre, mais il y a peut-être aussi, de façon sous-jacente, une volonté aussi de faire entendre que le poids ne va pas être que du côté de l'exécutif et que Gérard Larcher est aussi là pour permettre de rendre des comptes. Donc c'est un outil politique, c'est un outil de justice, c'est un outil démocratique, mais on s'en sert aussi pour remettre les cartes sur la table.
Oui, Bruno Cotrès, parmi les arguments entendus aujourd'hui de certains maires, hein, il y avait celui selon lequel, au fond, les Français n'avaient pas la tête à ça, l'esprit à ça, mais auraient-ils l'esprit à des élections à la rentrée prochaine?
Oui, rien ne dit qu'à la rentrée prochaine, la situation sanitaire serait fondamentalement différente. Donc ça, c'est certain. Alors après, que les Français n'auraient pas la tête à des élections, ça me semble un argument un peu limite. C'est-à-dire que je pense quand même que choisir son maire reste un acte civique et électoral auquel les Français sont assez attachés. Choisir son maire, c'est quand même très, très important, mais c'est sûr que nous ne sommes pas aujourd'hui du tout dans le même contexte que ça aurait été le dimanche 22 mars. Ça, c'est très clair.
Allez, on marque une pause dans les informés. Nous évoquerons, entre autres, les frondeurs, il ne faut pas les appeler comme ça, les dissidents peut-être de La République En Marche et ce 9e groupe dans une poignée de minutes sur France Info.
La paire. Écoute, il faut que je te dise, on s'est beaucoup vu pendant 2 mois et franchement, je suis pas dans ma zone de confort. Toi, tu laisses tout passer, le bruit, les courants d'air, moi je peux pas. J'ai besoin de double vitrage dans ma vie. Et jusqu'au 8 juin, chez La Paire, il y a 150 euros offerts, tous les 1000 euros d'achat sur la menuiserie et même sur la pose. Alors si t'es prête à faire des efforts pour changer, on y va.
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Chef d'entreprise, responsable achat, avec FactoClean, faites un geste durable pour la santé de vos collaborateurs et clients. Borne FactoClean, une borne élégante, mobile et autonome, avec distributeur automatique de gel hydroalcoolique. La solution innovante, sans contact et personnalisable à votre image. Rendez-vous sur le www.borne-hydroalcoolique.com. Borne, trait d'union, hydroalcoolique.com. Tout simplement.
Allez, la météo avec les prévisions et vous, Jean-Michel Golinski de Météo France.
Avant un fléchissement des températures à partir de samedi, s'accompagnant d'un passage pluvieux d'ouest en est et précédé d'orages dans le quart sud-est, les 3 prochaines journées s'annoncent très estivales et chaudes. Notez que le quart sud-est, sous les orages depuis quelques jours, va à partir de demain progressivement retrouver un temps plus calme et plus sec. Jeudi, les valeurs vont continuer à monter avec une moyenne de 29 au nord comme au sud. Vendredi, l'arrivée d'un ciel plus chargé sur les pays de la Loire et de la Bretagne au Hauts-de-France va légèrement atténuer la chaleur et samedi, la baisse sera beaucoup plus sensible, là, sur l'ensemble du pays.
minutes sur France Info, l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Ils ont été durant plusieurs semaines au contact du Covid-19. Tous les personnels soignants en première ligne pourront bénéficier à compter de la semaine prochaine de tests sérologiques sur prescription médicale afin de savoir s'ils ont été ou non contaminés. C'est ce qu'annonce le ministre de la Santé Olivier Véran aujourd'hui. Le gouvernement, quant à lui, promet la commande de plus d'1 milliard de masques sanitaires. Ils seront fabriqués en France est progressivement livré d'ici au mois de décembre. À l'étranger, le bilan se rapproche des 43 000 décès au Royaume-Uni. C'est l'un des plus élevés en Europe. Il soulève des questions dans le pays sur la gestion de la crise par le Premier ministre britannique Boris Johnson, que l'opposition accuse d'avoir tardé à imposer un confinement notamment. Et puis après avoir atteint une baisse d'un quart au plus fort de la crise, la consommation d'électricité reprend des couleurs en France, en particulier dans l'industrie manufacturielle où elle retrouve un niveau quasi comparable à la situation d'avant le confinement. Renault, de son côté, est parvenu à un accord avec les banques sur un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros, de l'argent frais qui doit aider la marque aux losanges à traverser la crise. L'enquête pour agression sexuelle visant le metteur en scène Abdelatif Kechiche est, elle, classée sans suite. Enquête ouverte en octobre 2018 après une plainte déposée par une jeune femme contre le réalisateur de La vie d'Adèle, Palme d'Or à Cannes. Guillaume Musso a lui été l'auteur le plus lu durant le confinement. D'après une étude de l'Institut GFK pour Livre Hebdo, le romancier qui a cartonné avec l'édition de poche de La vie secrète des écrivains, son roman. Il partage le podium avec Michel Bussy sur la deuxième marche et Aurélie Valogne. 20h32 sur France Info. Les informer, la suite.
20h21 France Info, les informer. Jean-François Aquili.
Tour avec Sophie Dravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, et vous, Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Allez, je vous dis, Orphelin, Forteza, Taché, Villani, ils l'ont fait, la formation de ce 9e groupe à l'Assemblée nationale, écologie, démocratie, solidarité, fort de 17 députés, dont 7 qui viennent de quitter l'AREM, La République en marche, et les autres avaient fait la démarche auparavant. Un groupe, sorte de groupe dissident de la majorité. Écoutez, Mathieu Orphelin, leur chef de file, il s'en est expliqué en conférence de presse.
Nous serons un groupe indépendant, avec une seule volonté, être utile à notre pays. Nous ne serons pas un groupe d'opposition. Nous serons un groupe positif, un groupe de proposition, un groupe de coalition, un groupe d'innovation politique. 17 premiers membres vous sont dévoilés aujourd'hui. D'autres nous rejoindront dès les prochaines semaines. Un petit groupe, diront certains. Petit, mais costaud. Une vraie équipe. Et une féroce volonté de tirer ensemble toutes les leçons de la crise que nous traversons pour que la transition écologique, le renouveau démocratique et le progrès social réussissent.
Petit mais costaud, Roselyne Fèvre, il a le sens de la formule, Mathieu Orphelin.
Oui, mais petit, costaud, qui peut grossir, si on l'a bien entendu, puisque pour l'instant, il dit que c'est un petit groupe qui est amené à grossir ses rangs. Alors, il dit qu'ils ne seront pas dans l'opposition, ni dans la majorité. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il le réinvente en même temps dans la majorité quand ils sont d'accord, et en même temps dans l'opposition quand ça ne leur va pas. Alors, est-ce que tout cela est ému? On va dire par un désir d'être utile à la nation, un désir d'être un aiguillon positif, qu'ils ont un sens aigu de la liberté, de leur conscience politique. Moi, je voudrais peut-être les croire, mais il me semble qu'il y a derrière un calcul politique pour peut-être faire émerger une personnalité. Ou au contraire, espérer, c'est ce qu'on entend dans ce qu'il vient de dire, espérer de faire grossir le groupe en vue de la présidentielle. Donc forcément, il y a des calculs politiques. Et je m'interroge aussi sur le momentum de cette émancipation. Alors qu'on n'est pas sorti de la crise, je trouve que le moment n'est pas tout à fait bien choisi.
Sophie Dravinel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des frondeurs, selon vous?
Oui, c'est-à-dire que c'est une sorte de fronde, mais ce que je trouve moins intéressant, c'est qu'il y a quand même un double phénomène, c'est-à-dire qu'il y a eu une scission du groupe et une perte de la majorité absolue, même s'ils vont rapidement la retrouver via la suppléante du député Olivier démissionnaire, la REM, Olivier Gaillard. Il se passe quand même quelque chose. Il ne faut pas le négliger, d'autant que ça vient à la suite déjà de la perte de 28 députés depuis 3 ans. Ils étaient 314, ils sont aujourd'hui 288.
En fait, au fil des années,
il y a une érosion lente qui se confirme là au fil de la crise. Mais effectivement, moi ce que j'entends chez Mathieu Orphelin, c'est qu'ils ne seront pas un groupe d'opposition mais de proposition, à mettre en parallèle avec ce qu'il dit, leur féroce volonté de tirer les leçons de la crise, etc. Donc on les sent un petit peu d'ailleurs comme les frondeurs auprès de François Hollande, mais sans doute moins violents. Et effectivement, moi je les vois plus comme une branche destinée à une branche de La République En Marche, destinée à peser vers la gauche alors qu'elle était partie plutôt vers la droite. Mais la nuance que j'apporte, c'est qu'il y a au sein de ce groupe des députés qui ne sont pas XLREM comme Delphine Bateau et qui, eux, sont en opposition frontale avec Emmanuel Macron. Et là, ça risque dans ce groupe de susciter du débat.
Yasmina Jaffar, il faut se rappeler quand même que Emmanuel Macron, ministre de l'économie, à l'époque, pour ses lois Macron, avait les frondeurs hollandais face à lui à l'Assemblée nationale. Le président a dû être très agacé par cette initiative qui tombe très mal, finalement, symboliquement.
Oui. On sait que les frondeurs ont fait du mal et ont abîmé le quinquennat de François Hollande, mais je crois qu'Emmanuel Macron, j'ai pas envie de dire que ça lui est égal, mais je suis pas sûre qu'il ait un paquet de mouchoirs près de lui et qu'il se dise « mon Dieu, où vont-ils, que font-ils ?» Ils sont 17, ils devaient être beaucoup plus. L'opération déminage a bien fonctionné parce que finalement, ils ne sont que 17. Ce sont des opérations et des démarches individuelles sous le sceau de l'écologie, de la démocratie, de la solidarité. Mais je crois que c'est l'occasion plutôt intéressante pour Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il devait se réinventer et que ça devait commencer par lui-même, de sortir de ce en même temps gauche-droite et de plutôt partir aujourd'hui sur un nouveau clivage qui est un clivage ceux qui ont des sous et ceux qui n'en ont pas, CSP+, CSP-, le clivage de classe, et ça serait peut-être réellement le démarrage de l'acte 2 de son quinquennat, parce que en se débarrassant, c'est un peu dur comme ça, mais en étant plus avec un boulet au pied comme ça, type Aurélien Taché, il peut peut-être assumer un petit peu plus le fait que le travailler plus, vous voyez ce qu'est en train de dire Édouard Philippe quand il dit il va falloir travailler, il va falloir de la solidarité, il va falloir du courage, c'est une façon aussi de dire aux Français, bon, on est dans une crise absolue, mais il va falloir travailler. Donc voilà, là, c'est peut-être plus cohérent pour Emmanuel Macron.
Bruno Cotterêts, ironie de l'histoire, il part au moment où Emmanuel Macron opère un virage dans le quinquennat. Du moins, c'est ce qu'il dit, le chef de l'État.
Oui, effectivement, c'est le timing effectivement qui apparaît un peu curieux. Mais alors, en dehors de ça... Tout ceci porte quand même fondamentalement la trace des paradoxes et des dimensions très complexes du macronisme. C'est là depuis le départ. Au fond, le macronisme, c'est un phénomène qui était très uni par la personnalité, le leadership charismatique d'Emmanuel Macron et par la question de l'Europe. Les marcheurs, ils sont aussi très unis par leur profil sociologique, du capital culturel qu'ils partagent beaucoup. Ce sont des diplômés, les marcheurs. Mais alors, depuis le début, on voit par contre que sur le plan idéologique, c'est pas forcément uni, La République en Marche. Et on a vu que le macronisme avait beaucoup de mal à définir qu'est-ce que c'est que le progressisme. On se rappelle du livre d'Ismaël Emelien qui avait tenté de définir le progressisme. On voit que c'est pas simple. Et avec plusieurs de mes collègues, nous avions étudié pour la fondation Terra Nova la sociologie des adhérents de La République En Marche il y a un an et demi, lors d'une grande enquête auprès des adhérents de La République En Marche, et on voyait très clairement qu'il y avait au sein de La République En Marche des tempéraments politiques différenciés, et notamment un pôle qui était plutôt de gauche et un pôle qui était plutôt de droite. Le pôle de gauche, on les avait appelés des progressistes égalitaires, des gens qui tiennent à la justice sociale, et on voit que le départ, par exemple, d'une personnalité comme Aurélien Taché, de ce point de vue-là, est tout sauf surprenant.
Sophie Dravinel, c'est un peu la fin du rêve de 2017 ?
Disons que c'est peut-être le premier pas vers une refondation, puisque Emmanuel Macron lui-même a souhaité cette refondation après la crise. Et donc on va voir comment elle se traduit. Mais je vous invite à lire dans Le Figaro demain, si je peux me permettre de faire une pub.
Évidemment.
L'interview que nous a accordée Gilles Legendre, et que je trouve longue interview, tout à fait intéressante, parce que évidemment, il met ce neuvième groupe en face de l'accord noué hier entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, dont nous parlerons. Et il explique que bon, c'est quand même pas aussi, il faut garder la mesure des choses. Mais il évoque une charge symbolique, et surtout, il note quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'il dit que c'est quelque chose qui était normal dans ce groupe où il y a une absence de référence doctrinale forte. Et je crois effectivement, comme le disait très bien Bruno Cotterêts, que c'est ce qui fait boiter sérieusement ce parti, ce mouvement.
Dans les colonnes du Figaro demain matin. Allez, 20h40 sur France Info, le fil info avec vous, Emmanuel Langlois.
506 nouveaux cas de Covid-19 et 69 patients admis en réanimation ces dernières 24 heures en France. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, précise néanmoins ce soir que le solde total de malades dans l'Hexagone continue de baisser. Après le déconfinement scolaire, peut-être celui des bureaux de vote. Le Conseil scientifique, en tout cas, ne s'oppose pas à la tenue du second tour des municipales le 28 juin. Mais le collège d'experts prévient qu'il faudra réduire les risques liés à la campagne électorale et réclame de tenir compte de la situation dans les 15 jours précédant le scrutin. Le maire de Tours, Christophe Boucher, lui parle d'une faute démocratique sur France Info. Il affirme que la société n'est pas prête pour un second tour des municipales au mois de juin. Plus de 60 000 salariés de l'éducation nationale vont toucher une prime exceptionnelle pour leur mobilisation pendant la crise, d'après le ministère. Selon les syndicats d'enseignants, le montant devrait varier entre 330 et 1 000 euros. Une hausse des décès en Italie, 162 supplémentaires en 24 heures. Le nombre de nouveaux cas de contamination augmente encore plus fortement. Il passe de 451 à 813. Les patients en réanimation sont en revanche moins nombreux qu'hier. L'aéroport de Nantes-Atlantique rouvrira son trafic passager le 8 juin, d'après nos confrères de France Bleu Loire-Océan. Une reprise très limitée avec 3 allers-retours par semaine entre Nantes et Lyon, qui rouvrira également donc aussi son trafic le même jour, le 8 juin.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il y a eu ce récit d'une colère froide d'Emmanuel Macron qui rêvait d'une sorte d'union sacrée contre le Covid-19 et une partie de ses rangs, même une petite partie certes, mais une partie du moins se délite. Ce qu'en a dit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale.
Chacun prend ses responsabilités, l'histoire jugera, mais quoi qu'il en soit, la majorité reste la majorité. Vous savez, il y avait quelques députés qui étaient non inscrits, ils étaient donc dispersés, ils ont décidé de se regrouper, c'est leur droit, et la vie parlementaire va continuer, la vie de la majorité aussi, et en toute sérénité. Se diviser, c'est toujours mauvais, le faire dans un moment où il faut justement être fidèle à la démarche initiale qui est le rassemblement, qui est le dépassement des clivages, évidemment, ce n'est pas le moment le meilleur, mais écoutez, j'espère simplement que ce nouveau groupe trouvera son utilité, c'est tout.
Compliqué, Yasmina Jaffar, la vie de cette majorité aujourd'hui. Hein.
Oui, mais en tout cas, c'est vrai que les mots de Richard Ferrand sont... c'est assez versé sur un plateau que de dire aujourd'hui, vous partez au moment où il ne le faut pas, et c'est un peu les culpabiliser, donc c'est plutôt pas mal de minimiser de cette manière-là pour la majorité. Mais la REM, en fait, n'existe pas vraiment si le macronisme n'est pas...
Vous dites quoi, la République Macron, En Marche n'existe pas, c'est ce que vous dites là?
Non, ça n'existe pas, ni pour Emmanuel Macron, qui a toujours considéré que c'était de côté. Et comme le macronisme, c'est Emmanuel Macron, et qu'on sent qu'aujourd'hui, il est en train de changer, il a dit cette semaine, c'est cruel pour moi. Il a dit me réinventer. Il a dit mea culpa pour la stratégie autour des hôpitaux. Il est en train de changer, il est en train d'évoluer totalement. Donc le macronisme évolue en même temps qu'Emmanuel Macron, vu que le macronisme, c'est Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, si la REM se délite un peu, c'est aussi du fait d'Emmanuel Macron qui ne s'en est pas occupé, et aujourd'hui, c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'occasion de proposer autre chose et d'opérer un virage qui soit un virage plus social autour des aides ici et là. On a vu l'attitude qu'il a aujourd'hui avec Madame Merkel, donc d'exister aussi sur le plan européen, mais toujours pour ceux qui n'ont pas, et d'être un peu moins dernier de cordée, parce que c'est eux aujourd'hui les héros du quotidien. Et ça, il l'a compris aujourd'hui. Donc on risque pas d'entendre les petites phrases du début. Je pense que 2017 est totalement derrière le mandat d'Emmanuel Macron, et que cette séparation aujourd'hui, finalement, que dire, c'est presque normal.
Puisque vous évoquez cette annonce conjointe hier, celle d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel sur ce déblocage de 500 milliards d'euros en direction des pays européens les plus frappés, si je puis dire, par le Covid-19, voici ce qu'on a dit tout à l'heure sur France Info, l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Karima Delli, qui préside par ailleurs la commission du transport et du tourisme du Parlement européen.
C'est un pas en avant notable, mais on peut parler quand même d'une occasion un peu manquée. C'est 4 fois moins ce que réclame le Parlement européen, qui a mis ça sur la table la semaine dernière. Et si on veut être vraiment ambitieux, nous les écologistes, nous demandons près de 3 750 milliards. Je pense que aussi, c'est que les conditions de remboursement ne sont absolument pas claires. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une différence entre l'annonce et la mise en œuvre, qui va rembourser, à quelle échéance et pour qui. Et là, c'est le mal qui frappe, parce qu'on dit qu'on va aider des États qui sont très endettés, mais il va falloir qu'ils remboursent. Alors, à part quel biais, est-ce qu'on va retourner sur des politiques austéritaires qui a malheureusement fait en sorte que ces pays se sont retournés contre l'Europe?
Sophie Dravinel, nous sommes le jour d'après. Il y a, comme le dit cette députée européenne Karima Delli, une sorte d'effet d'annonce et un mystère autour du remboursement des sommes avancées.
Oui, en fait, c'est toujours les petites notes en bas de page, comme le disait un confrère dans son édito ce matin, qui sont importantes à lire. C'est-à-dire que pour l'instant, les choses ne sont pas complètement claires. Mais je crois que toute la famille politique française, en tout cas, a reconnu, à part évidemment Jean-Luc Mélenchon, dont on sait sa difficulté de relation avec l'Allemagne, quasi historique, il y a que au moins le tabou de la mutualisation est tombé en Allemagne et qu'il y a eu
un geste réel, une évolution réelle de la chancelière avec Emmanuel Macron, qui a fait quelque chose véritablement qui s'est passé. Et même si les États qu'on peut appeler frugaux ou que d'autres appellent radins vont essayer de bloquer les choses, il y a vraiment un pas en avant qui a été franchi.
Oui, là-dessus, Bruno Cotterêss, toujours cette suspicion à l'endroit de l'Europe, finalement. On a la sensation qu'il y a parfois des pages qui se tournent, des nouvelles pages qui s'ouvrent, et puis il y a toujours, dans la décantation, des questions sur ces sommes faramineuses. Il va être question lundi prochain de 1000 milliards d'euros qui vont être avancés. D'où sort cet argent magique? Nous l'évoquions largement hier soir sur France Info dans Les Informés.
Oui, tout à fait. Trois observations. La première, ça n'est pas la première fois qu'un plan très ambitieux est annoncé. En 2014, Jean-Claude Juncker, prenant la présidence de la Commission européenne, avait parlé de la Commission de la dernière chance. Et il avait élaboré un ambitieux plan de 300 milliards pour des infrastructures. Et tout ça, c'est vrai que c'est toujours le même problème, c'est que ça soit visible dans la vie des citoyens. Deuxième observation, effectivement, c'est un pas extrêmement important, extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire de la construction européenne. Mais il va falloir voir effectivement quelles sont les modalités de remboursement, parce qu'en matière de prêt, ce sont toujours quand même les modalités de remboursement qui sont les variables qui sont très importantes. A priori, le projet d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, c'est que ça soit l'Europe qui soit au fond, qui soit en charge de lever les fonds et en même temps de rembourser, ce qui serait une innovation extrêmement significative. Mais il va falloir aller voir effectivement dans les détails. Troisième observation, en matière européenne, vous avez raison Jean-François, on a toujours un peu le même scénario. Et au bout du compte, il y a quelque chose qu'on n'arrive jamais totalement à réaliser, qui est le débat avec les citoyens, la construction de l'Europe avec les peuples et avec les citoyens, avec mes collègues Thierry Chopin et Emmanuel Rivière. On vient de publier une note sur les Français et l'Europe, et qui montre l'ambivalence du rapport des Français à l'Europe, mais aussi beaucoup, beaucoup de critiques adressées par les Français à la construction européenne.
Là-dessus, Yasmina Jaffar, vous diriez ce soir au fond que, eh bien, ce président Emmanuel Macron essaie de faire avancer le pays vers le déconfinement, le retour à l'activité économique, le retour à l'Europe, et qu'au fond, eh bien, il y a ces mouches du coche, hein, cette politique qui le rattrape au quotidien et qui vient au fond gripper un petit peu la machine.
Oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis le début, ça, par contre, c'est un inchangé. Il veut être homme fort d'Europe. Il veut en faire en sorte. Enfin, c'est quelque chose qui lui tient absolument à cœur. Et il a commencé son discours hier avec Madame Merkel en disant l'Europe de la santé n'existe pas. Et aujourd'hui, il a reçu des responsables de Sanofi. Quand on sait les réactions qu'on a pu avoir en France quand ils ont expliqué que les Américains seraient les premiers à avoir le vaccin parce qu'ils ont payé, c'est aussi une volonté de faire entendre à tout le monde, parce que la France en sort avec une image un petit peu amoindrie par rapport à l'Allemagne et la gestion et des masques et du reste, de pouvoir dire, regardez, quelque part, je rattrape un petit peu les choses. Donc, une Europe de la santé, ça sera intéressant. Et c'est vrai que c'est totalement inédit ce qui s'est passé hier avec Madame Merkel. Et c'est impossible de le minimiser, parce que ça permet de penser que le couple n'est pas mort. Le couple franco-allemand n'est pas mort.
Et il y a sous-jacent, évidemment, ce désir de retour à l'activité économique. Nous en parlons dans un instant pour refermer ces informés pour l'heure 20h50 sur France Info. Le fil info avec vous, Emmanuel Langlois.
Et le parquet de Nanterre, près de Paris, qui ouvre plusieurs enquêtes préliminaires après 4 plaintes déposées dans les Hauts-de-Seine pour homicide involontaire déposé par les familles de résidents de 3 EHPAD. Tous sont décédés des suites du Covid-19. La quasi-totalité des plages corses vont rouvrir à partir de jeudi après-demain pour des bains de soleil ou des activités dynamiques, annonce le préfet ce soir, avec toutefois quelques restrictions. Pique-nique, barbecue et consommation d'alcool y seront interdits. 3 policiers testés positifs à Lille, 1000 de leurs collègues vont être dépistés dès demain. Les cas contacts sont placés à l'isolement préventivement. Idem dans le Pas-de-Calais après la détection de 3 cas positifs parmi les policiers d'Arras. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne lui évoque au Sénat la possibilité d'une réouverture au 2 juin des parcs à thème situés en zone verte comme le Puy du Fou en Vendée. dont le fondateur Philippe de Villiers avait dénoncé une discrimination par rapport aux restaurants et aux parcs zoologiques. Face aux accusations, aux menaces de boycott américaines, les pays membres de l'OMS acceptent une enquête sur la réaction de l'agence onusienne face à la pandémie de Covid-19. Donald Trump accuse toujours l'Organisation mondiale de la santé d'être inféodée à Pékin et lui a lancé un ultimatum d'un mois.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Une demande forte de relance du pays, mais tout d'abord, Roselyne Fay, vous vouliez ajouter un mot sur la chancelière. Hein.
Oui, parce que en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Angela Merkel, qui a toujours été quand même comme un peu harpagon avec ses doigts sur sa cassette. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la cour de Karlsruhe, c'est-à-dire la cour suprême allemande, pour la première fois, a demandé d'expliquer en quoi la BCE était en conformité avec les traités européens pour faire ces plans de relance. Et elle parlait aussi des anciens oui. plans de relance. En clair, justifier son programme d'aide. Et ça, c'est pour une raison, on va dire, idéologique de son ancien président de cette Cour suprême, qui est plutôt souverainiste. Et en fait, ça a été un acte de foi de la part d'Angela Merkel, dire... On va pas laisser se défaire l'Europe. Je ne laisserai pas l'Europe se défaire, en quelque sorte. Et comme elle part, je crois, dans à peu près un an, c'est une façon aussi pour elle de ne pas laisser une mauvaise image et un héritage catastrophique pour l'Europe qui est en train de sortir de sa léthargie face au couple franco-allemand et qui échappe aussi à la critique d'une Europe impuissante, désunie, pas solidaire. La crainte de la mort de l'Europe, comme le disait Jacques Delors. Voilà ce que je voulais rajouter.
En attendant, c'est la réalité, le constat du moins de l'effectivité de ces centaines de milliards d'euros qui sont mis sur la table. Il faut rouvrir les frontières. C'est ce qu'estime le patron d'Airbus, Guillaume Faury, invité de France 2 et de France Info.
On est vraiment en train de parler de limiter la casse, si je peux me permettre, parce que les dommages sont déjà très importants. Donc il faut vite retourner à l'activité aérienne, au moins dans des proportions importantes en Europe. C'est la priorité numéro un. Et par exemple, l'ouverture d'Orly à la fin du mois de juin, ou la circulation libre entre la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, l'Italie. Des choses très simples, très pragmatiques, mais qu'il faut maintenant vraiment décider.
Oui, parce que vous évoquez les emplois donc dans le secteur. Rien que pour Airbus, il y en a 135 000, dont 48 000 en France. Est-ce que vous excluez des licenciements à ce stade ?
Quand on perd 30 ou 40% de son activité, ce qui est très important, c'est de comprendre combien de temps ça va durer et quelles sont les meilleures solutions à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on est en train de regarder toutes les solutions pour survivre à cette crise. Il faut être très clair.
Vous l'excluez pas, donc.
La situation est vraiment existentielle pour notre secteur.
Vous l'excluez
on
pas,
regarde
donc.
Ce qu'il va falloir faire pour s'adapter.
Sophie de Ravinel, nous avions ouvert ces informés avec, au fond, ce questionnement sur cette tenue ou pas des municipales. Le vrai moteur, finalement, des décisions politiques du moment, c'est justement cette reprise-là, la reprise de l'activité économique. Ça pousse derrière.
Oui, absolument, ça pousse derrière. Et quand je l'entends dire qu'il faut regarder ce qu'il faudra faire pour s'adapter, je repense à un entretien qu'avait accordé au Figaro Geoffroy Roux-de-Bézieux le 10 avril, dans lequel il avait reparlé de la question des 35 heures qui reviennent régulièrement, ce serpent de mer des 35 heures. Il avait un peu battu en retrait parce que il avait eu des réactions assez courroucées. Mais il est vrai que ce sujet, dans lequel d'ailleurs nous consacrons deux pages demain dans le Figaro, oui. C'est celui du temps de travail, c'est celui des jours fériés, c'est celui des congés payés aussi, en plus des licenciements évoqués, évidemment. Et ça, c'est devant nous.
Bruno Cotterêts, c'est désormais par-delà l'urgence sanitaire, l'urgence économique, nous le répétons chaque soir dans les informés de France Info, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'urgence tout court pour le pays.
Oui, et je dirais même que c'est l'urgence sociale, parce que il s'agit de sauver des emplois, tout un tissu de PME, mais aussi de grandes entreprises vont sans doute être amenées à réduire leurs effectifs. Donc il y a une urgence qui est peut-être pas demain matin, mais en tout cas après-demain, sans aucun doute. Et on peut craindre aussi la rentrée. On aura la rentrée aussi à trouver des emplois à tous les jeunes qui sortent du système éducatif, qui sortent des universités. Donc une situation qui va être extrêmement tendue, extrêmement compliquée sur le front économique, mais aussi sur le front social.
Allez, il est temps de conclure, ces informés de France Info. Nous évoquions à l'instant, dans le fil info avec Emmanuel Langlois, le parquet de Nanterre qui ouvre des enquêtes préliminaires après 4 plaintes déposées contre X pour homicide involontaire dans des EHPAD. Yasmina Jaffar, la une de laruchemedia.com consacrée à la responsabilité pénale.
Oui, tout à fait. L'avocate Caroline Blanvillain nous explique exactement par le menu la responsabilité pénale des autorités et des employeurs en période de crise sanitaire. C'est un produit, c'est un papier très juridique, oui. Mais très intéressant.
Et avec vous, Sophie de Ravinel, le rappel de la une du Figaro demain.
Avec une question que j'évoquais précédemment, allons-nous devoir travailler plus demain ?
Oui, c'est une vaste question que chacun se pose, chacun d'entre nous. Merci à tous les quatre, Sophie de Ravinel, Roselyne Fèvre, Yasmina Jaffar et Bruno Cotrès, d'avoir participé à ces informés de France Info. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.